Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons tirer des leçons à partir de la vie d'un personnage nommé Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham.
Ceci en compagnie d'Alain, qui exerce un ministère pastoral dans le sud de la France.
Avec Alain, nous nous penchons sur la vie de Joseph. La dernière fois, nous avons découvert que les frères de Joseph le détestaient, parce que le père montrait ouvertement qu'il le préférait à tous ses autres fils. Aujourd'hui, nous allons considérer deux événements qui n'ont fait qu'aggraver leur haine envers Joseph. Alors Alain, racontez-nous la suite de cette histoire.
Eh bien, la relation de Joseph envers ses frères s'est nettement détériorée suite à deux rêves incroyables qu'il a faits et qu'il a racontés à toute sa famille. Là, je voudrais m'arrêter un instant pour dire que certaines personnes cherchent absolument à trouver des explications à leurs rêves. Ceci est en désaccord avec la Bible. En effet, peu de rêves dans la Bible sont cités comme ayant une portée spirituelle. Les rêves dont la Bible parle ont eu lieu dans des circonstances très particulières et en accord avec les grands desseins de Dieu. D'ailleurs, il faut se souvenir que ces rêves ont eu lieu alors que la Bible était encore inachevée. Aujourd'hui, nous avons la révélation entière de Dieu dans la Bible, sa parole, et nous ne devons rien y ajouter. C'est dans la Bible qu'il faut chercher l'instruction et la direction du Seigneur pour nos vies. Néanmoins, l'Ancien Testament nous informe qu'à certains moments rares, Dieu a communiqué aux siens par le biais de rêves.
Alors Alain, en quoi consistait le premier rêve de Joseph?
Le premier rêve décrit dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 8, montre les gerbes de blé de ses frères se prosterner devant lui. Assez naïvement, Joseph raconta ce rêve à ses frères, ce qui ne fit qu'exciter leur colère contre lui. Il est très difficile de savoir jusqu'à quel point Joseph avait compris son rêve à ce moment-là. Il était conscient toutefois que dans ce rêve, il était supérieur à ses frères. Connaissant ce qui arriva à Joseph, nous pouvons dire que Dieu le destinait à une position sociale très élevée. Et c'est ce que le Seigneur lui révélait dans ce rêve. En fait, il sera amené à une position élevée pour exercer sa bienveillance envers ses frères. Mais cela ne devait arriver que bien des années plus tard.
Et comment est-ce que les frères de Joseph ont réagi à ce rêve?
Ses frères lui ont exprimé leur dégoût et leur indignation. Dans Genèse 37, verset 8, ils lui dirent « Prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Ils ont protesté, affirmant très fort que jamais ils ne se soumettraient à lui. Bien entendu, ses frères pensaient que ce rêve était le résultat de l'ambition et de l'orgueil né dans le cœur de Joseph. Parce qu'ils étaient orgueilleux. Ils ne pouvaient même pas concevoir se prosterner devant Joseph. Aucun d'entre eux ne savait à ce moment-là comment les événements allaient se dérouler pour que, des années plus tard, s'accomplisse la providence de Dieu. Ce rêve n'a fait qu'alimenter et aggraver la haine qu'ils avaient pour leurs frères.
Alain, vous avez parlé de deux rêves. Dans le premier, les gerbes de blé de ses frères se prosternent devant Joseph. Quel est son deuxième rêve?
Eh bien, dans son deuxième rêve, le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant lui. Et ce rêve, Joseph le raconte à ses frères et à son père, Jacob. Or, il semble ici qu'il l'a fait avec orgueil.
Pourquoi dites-vous cela?
Eh bien, il aurait dû se montrer discret et prudent, surtout après la réaction de ses frères suite à son premier rêve. Mais la sagesse lui manquait. Il ne prêta aucune attention à leur réaction et s'exprima franchement.
Et son père, qu'a-t-il fait cette fois-ci?
Cette fois-ci, son père lui fit des reproches. Et bien entendu, ses frères le méprisèrent plus encore. En fait, Jacob protesta en disant « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi ?» Ils étaient remplis de jalousie envers lui. Et Jacob a fait ce que fit Marie, la mère de Jésus, des siècles plus tard, c'est-à-dire qu'il se mit à réfléchir longuement sur ces choses.
Et pourquoi a-t-il fait cela?
Jacob devait reconnaître qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans le rêve de Joseph. Il a peut-être même reconnu la main de Dieu. Bien sûr, à ce moment-là, il n'avait aucune idée de ce dont il s'agissait. Ce qui est certain, c'est que ses rêves montraient la supériorité de Joseph sur ses frères, et même sur ses parents. Le fait qu'il y eut deux rêves semblables prouve aussi que Dieu allait certainement accomplir ses desseins.
Et comment les frères de Joseph ont-ils réagi à cette situation?
Nous avons déjà vu que les frères de Joseph en étaient venus à le haïr. On pourrait les comparer à un baril de poudre prêt à exploser. Ce qui arriva à Joseph par la suite montre à quel point la situation était très grave.
Que s'est-il passé, Alain?
Les autres fils de Jacob étaient partis faire paître les moutons de leur père près de Sichem. Puis Jacob envoya Joseph auprès d'eux pour savoir si tout se passait bien. Mais vu le contexte familial, ce n'était pas la plus sage des décisions. Jacob aurait dû être conscient de la tension qui existait entre Joseph et ses autres fils, mais apparemment il ne comprenait pas la gravité de la situation.
Alors qu'a fait Joseph?
Eh bien Joseph a obéi à son père, mais lorsqu'il est arrivé à Sichem, il n'y trouva pas ses frères. Il y rencontra un homme qui avait entendu ses frères dire où ils se rendaient. Et je pense qu'il faut noter ici que Joseph et cet homme ne se sont pas croisés par le hasard, mais par la volonté parfaite de Dieu. Dieu avait choisi le moment exact où l'homme avait surpris la conversation. Et Dieu avait choisi le moment parfait pour que Joseph le rencontre. Donc Joseph a découvert que ses frères étaient allés à Dothan. Et Joseph s'y rendit pour obéir à son père. À ce moment précis, l'histoire nous révèle des détails sombres et sinistres.
Oui, mais il faut attendre la prochaine fois pour découvrir ce qui est arrivé à Joseph. Mais nous pouvons dire dès à présent que ce qu'il attendait allait être pénible et douloureux. Joseph n'en savait encore rien.
Oui, mais il faut le dire, les afflictions qu'il allait éprouver n'allaient pas le séparer de l'amour de Dieu. Et ces épreuves ne gêneraient en aucune manière les plans incroyables du Seigneur. Car Dieu avait prévu quelque chose de merveilleux pour ce jeune homme. Je mentionne cela afin d'encourager ceux qui souffrent. Certains d'entre vous peuvent subir des épreuves difficiles et sans fin. Laissez-moi alors vous rassurer en affirmant ceci. Si vous êtes un vrai chrétien, faites confiance au Seigneur Jésus. Alors notre bon Père Céleste ne permettra jamais que vous soyez séparés de son amour. Et comme il a réalisé ses projets pour Joseph, il réalisera ses plans pour vous. Le plus important et de vous conduire jusqu'au ciel pour vous faire entrer dans la présence de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, pour l'éternité. Jamais les desseins de Dieu ne seront bouleversés ou frustrés, ni à cause de la méchanceté des hommes, ni à cause de circonstances. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il a promis d'être présent avec nous quand tout va mal. Dieu ne nous abandonnera jamais dans les moments difficiles, même si tous peuvent nous abandonner. Il continuera à œuvrer en nous et autour de nous. Souvenons-nous comment l'apôtre Paul a encouragé les chrétiens de l'église de Philippe en disant « J'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son avènement au jour de Jésus-Christ. »
Merci Alain pour ces paroles rassurantes. Nous vous invitons à écouter notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui où vous découvrirez la tournure dramatique que va prendre la vie de Joseph.
Tout comme Joseph, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais quelles que soient les difficultés devant nous, nous pouvons nous appuyer avec confiance sur les vérités bibliques évoquées par Alain. L'Éternel demeurera fidèle envers les siens. Son amour restera toujours constant. Il achèvera l'œuvre de salut commencée en nous et il nous recevra dans sa présence éternelle.
Le mystère de la souffrance est grand. Toutefois, cher ami, il est préférable de traverser les épreuves avec l'aide du Seigneur plutôt que d'y faire face seul.
À présent, Jean-Marc va poursuivre ses méditations bibliques sur les paroles de Jésus appelées les Béatitudes. Il commence avec la lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8.
Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Les hommes, livrés à eux-mêmes, n'ont pas le cœur pur. De ce fait, ils ne peuvent voir Dieu. La dernière fois, nous avons appris une bonne nouvelle, celle que Dieu peut purifier les cœurs rendus impurs par le péché. Nous avons aussi écouté l'enseignement de l'apôtre Jean, qui nous fait connaître comment cela peut être possible. Lisons de nouveau ces versets. Parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Tout au long de l'histoire, le sacrifice des animaux a tenu une place importante dans la pratique d'un grand nombre de religions. Aujourd'hui encore, des sacrifices sont offerts dans certaines sociétés. Les personnes qui les offrent cherchent par là même à manipuler le Dieu à qui ils sont destinés. Elles tentent ainsi d'obtenir sa faveur ou d'apaiser sa colère. Elles désirent voir son intervention pour enlever une malédiction ou résoudre un problème, pour influencer une récolte ou obtenir une guérison. Cependant, la Bible l'affirme, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'offrir de sacrifice, car Jésus s'est offert à Dieu comme le sacrifice parfait, une fois pour toutes. La Bible le déclare aussi, le sacrifice de Jésus purifie celui ou celle qui croit en lui de ses péchés. Écoutez quelques versets tirés de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Par une offrande, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter un sacrifice pour les ôter. Parce que nous avons reçu la purification de nos péchés, la colère de Dieu à notre égard s'est apaisée et il nous accorde sa faveur. Parce que nous avons reçu le pardon de nos fautes, nous pouvons prier Dieu sans jamais lui offrir de sacrifice, confiant qu'il nous écoute et qu'il nous répondra selon ses desseins bienveillants. Parce que Dieu, par le sacrifice de Christ, nous considère purs, il nous accueille dans sa famille comme ses enfants. Pour ces raisons, nous n'avons plus à craindre Dieu, mais nous pouvons nous abandonner entre ses mains, assurés de son amour. Quelle joie et quel privilège! Selon la promesse de Jésus, tous ceux qui ont reçu de lui la purification de leurs fautes verront Dieu. Que voulait-il dire par ces mots « voir Dieu » C'est ce que nous allons apprendre la prochaine fois.
Pour en savoir plus et connaître la suite de l'histoire de Joseph, nous vous invitons à nous retrouver lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui.
En attendant, nous prions notre Seigneur, afin que vous, qui nous écoutez, vous puissiez pleinement vivre la bénédiction prononcée par Jésus, qui est de recevoir la purification des péchés et de voir Dieu.
À présent, nous vous disons au revoir.
Au revoir et à bientôt.